au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard et Elisabeth Antebi.
Madame, Monsieur, bonjour. Dans cette émission Au fil des pages, nous parlerons aujourd'hui d'édition avec l'un des plus grands noms de l'édition française, l'éditeur Bernard de Fallois. Bernard de Fallois, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être venu jusqu'au studio de Canal Académie que vous découvrez.
Oui, avec plaisir, car il n'y a rien de plus agréable qu'un studio de radio. Quand on pense à la difficulté, au nombre de personnes qu'il faut mobiliser, à tout ce que présente comme effort, travail minutieux la fabrication d'un livre, on se dit quelle merveille d'être dans une petite pièce de 12 mètres carrés, de pouvoir parler au monde entier sans avoir préparé quoi que ce soit, avec le charme de ce qui est improvisé. Donc je vous envie énormément.
Nous en sommes très heureuses. Bernard de Fallois, j'ai tout de suite envie de vous demander comment êtes-vous entré en édition, comme on entre en religion.
Je suis plutôt sorti d'une religion, car j'étais professeur, comme le dit le proverbe que Marcel Pagnol aimait citer, qui professeur un jour, professeur toujours, et c'était vraiment le métier que j'ai le plus aimé et dont je n'aurais jamais dû sortir. Mais c'est un métier dans lequel, pour tout vous dire, si l'on ne fait pas deux ou trois autres choses, on trouve que les revenus sont trop modestes. Ce qui fait que les professeurs sont amenés, pour une raison ou pour une autre, à collaborer à des livres ou à faire des travaux secondaires. Et parmi ces travaux m'a été proposé un jour, dans les années 60, celui de faire à raison d'une demi-journée par semaine les programmes d'une collection qui était encore assez récente, mais qui commençait à avoir un essor indéniable qui était le livre de poche. C'est ce qui m'a séduit. Je crois qu'on m'aurait proposé d'entrer dans l'édition proprement dite, j'aurais dit non. Parce que chercher des livres, lire des manuscrits, parler avec des auteurs, tout cela ne m'aurait pas tenté. Mais pouvoir librement, sans avoir à rencontrer personne, choisir parmi les livres existants, les plus récents comme les plus anciens, des livres que l'on se propose d'offrir au grand public à des prix tellement modérés qu'à l'époque c'était une véritable révolution.
Je m'en souviens,
comme
oui.
Comme un livre de poche. C'était exactement mon idéal. Et d'une certaine manière, c'était continuer mon métier de professeur, c'est-à-dire choisir des livres et les faire découvrir. Alors, c'est comme ça que j'y suis entré. Et puis, j'ai été à ce moment-là, au bout de quelques semaines ou mois, voilà, je suis tombé dans un piège. C'est que si vous choisissez un livre et qu'ensuite son sort ne dépend plus de vous, ce n'est pas vous qui allez décider ni de la façon de le présenter, de la couverture qu'il aura, du texte de présentation qui sera au dos de la couverture, ni du tirage qui aura lieu, ni de la correction des épreuves, ni commercialement du nombre d'exemplaires qui seront tirés et mis chez les libraires. Si tout cela vous échappe, vous êtes frustré. Vous avez l'impression de ne pas avoir fait pour l'auteur ce que vous vouliez. Et petit à petit, à la fois parce qu'on me l'a demandé et aussi parce que j'y prenais du plaisir, au lieu de travailler une journée par semaine, j'ai travaillé tout le temps dans ce métier. Voilà comment je suis devenu éditeur. C'est aussi par hasard que quelques années plus tard, nettement plus tard, j'ai quitté la maison que je dirigeais à l'époque, c'était Hachette Livre, et je suis entré dans le groupe des presses de la Cité.
Vous êtes resté longtemps.
J'y suis resté aussi, près de 12 ou 13 ans. Et là, il y avait une ou deux maisons qui étaient un petit peu en déshérence, dont on s'occupait moins. Et j'ai pensé qu'il était bon de leur redonner un peu de vigueur, d'avoir des programmes un peu plus importants. Et à ce moment-là, j'ai pris la fonction d'un éditeur qui, sous le nom de Julliard, composait un programme, cherchait des nouveautés, cherchait des auteurs, anciens ou nouveaux. Et donc, je suis passé à un autre aspect de l'édition, qui était celle des découvertes. Alors que le livre de poche, c'était autre chose.
Là, si Hélène Renard me permet d'intervenir...
Elisabeth Antebi, bien sûr.
J'interviendrai plutôt au titre d'un de vos jeunes auteurs de l'époque, puisque vous avez hérité de moi via le bébé vous a été refilé par Sven Nielsen, qui était quand même un grand éditeur. et qui vous a refilé, si je puis dire, les films Madame Claude qui ne vous ont satisfait qu'à moitié, comme bien dans votre maison d'édition.
Oui, qui n'était pas exactement le genre de sujet que je cherchais à publier, mais ça m'a fait plaisir de connaître l'auteur, dont j'ai vu qu'elle était capable de faire tout autre chose.
Et alors, vous m'avez envoyé une des plus belles lettres d'éditeur, là, je dois le dire, en tant qu'auteur, comme hommage à un éditeur, puisque immédiatement après, je vous avais proposé Droit d'asile en Union soviétique, et là, nous entamons d'ailleurs quelque chose qui s'est continué pour vous avec Dmitrievitch, Volkov, que nous avons connus tous les deux. Droit d'asile en Union soviétique, vous l'avez pris avec beaucoup de courage, parce qu'à l'époque, il en fallait, c'était dans les années 75-76. C'était sur les asiles psychiatriques, hein, et pour les dissidents, comme instrument de torture, qui recommence aujourd'hui d'ailleurs apparemment. Et vous m'avez envoyé une lettre superbe d'éditeur qui ne voulait pas publier tout de suite ce livre alors que finalement la situation économique le demandait, puisque c'était à la mode, il fallait intervenir tout de suite. Et vous m'avez écrit qu'il fallait savoir attendre de temps en temps, et j'ai une lettre superbe de vous sur l'écriture et sur le fait qu'un auteur doit mûrir et que tout était là pour que je mûrisse. Je ne vous ai pas écouté à temps, j'espère l'avoir fait. 10 ans plus tard, le message m'est revenu, je dois vous le dire. Est-ce que vous avez souvent comme ça réaiguillé des auteurs? Est-ce que c'est un plaisir pour vous?
Ça m'arrive très souvent d'avoir des conversations avec les auteurs sur un projet ou sur un manuscrit qui ne m'a pas d'emblée conquis. Je préfère bien entendu l'inverse, je préfère une découverte enchantée et pouvoir dire à l'auteur que j'ai pris tellement de plaisir à le lire que je vais le soutenir. Mais lorsque je vois une observation, plutôt qu'une critique, mais une observation possible, je la fais en pensant que les auteurs, presque toujours, ne m'en veulent pas. Ils savent que c'est un point de vue. Quelquefois, ils se rangent de mon avis, quelquefois non. Et comme en matière de littérature, en général, personne ne peut dire qu'il y a, comme en physique ou comme en thématique, des choses vraies, des choses fausses. C'est à la fois subjectif, et puis c'est une question, je prendrai un exemple, celui du roman, où le goût d'une époque peut très bien ne pas être le vôtre, sans que pour autant ni les uns ni les autres puissent dire « c'est moi qui ai raison ». Par conséquent, les auteurs se fâchent rarement. Mais c'est toujours mieux de savoir qu'on parle avec quelqu'un qui vous dit très franchement ce qu'il a en tête.
En 1987, Bernard de Fallois, vous fondez votre propre maison d'édition, les éditions de Fallois. Alors, on va fêter ensemble les 20 ans de votre maison. Vous les avez déjà fêtés?
Non, je ne sais pas fêter.
Oh,
je sais que ça arrive à peu près à cette date-là. Quand cette maison a commencé, c'est parce que j'avais une première fois quitté Hachette, pas du tout de mon propre gré, mais parce qu'on m'avait très gentiment poussé vers la porte. Et je suis entré auprès de la cité, au Sven Nielsen, que je connaissais depuis très longtemps, puisque j'avais rencontré plusieurs fois chez Simenon, m'avait dit « si un jour vous êtes libre, je serais très heureux que vous veniez travailler avec nous ». Donc je suis entré chez lui, je suis resté 12 ou 13 ans, et là aussi, pour des raisons qui ne tenaient pas à ma volonté, mais à la suite d'une opéra où les presses ont été absorbées par d'autres maisons, j'en suis parti. Donc il me restait soit à prendre une retraite qui aurait sûrement été agréable, je ne sais pas, j'ai pas fait l'expérience, soit à continuer, mais cette fois-ci en me disant, on peut se tromper une fois, on peut se tromper deux fois, il faut pas se tromper trois fois dans la vie. Et la bonne règle est celle-ci. En matière d'édition, rien ne se fait en 24 heures. Un projet demande toujours des semaines, des mois, quelquefois des années pour mûrir. Se lancer dans un projet et être stoppé en cours de route par un accident, c'est très désagréable. Pour vous, mais aussi pour les gens que vous avez engagés à travailler avec vous. Et quelle est la seule manière de ne pas avoir d'accident? C'est d'avoir un peu plus que la moitié du capital. C'est une considération très terre-à-terre, mais que je donne à tous ceux qui réfléchissent pas seulement à l'édition, mais à autre chose. Ou bien vous vivez avec votre valise à côté de vous, prêt à partir du jour au lendemain. J'ai vu comme ça un des grands éditeurs de magazines actuels, un jour dans son bureau au Figaro, et il avait sa valise, je lui ai demandé s'il partait en week-end, et il m'a dit « je pars pas en week-end, mais je suis toujours prêt à partir le lendemain parce que je sais qu'on ne voudra pas me garder ». C'est ce qui lui est arrivé, il est parti faire autre chose. Alors, ou bien c'est ça, ou bien on veut rester, Et à ce moment, être sûr que personne ne vous dira « Mon cher ami, ça serait mieux que vous alliez faire autre chose. » Et dans ce cas-là, il faut avoir la moitié du capital et un peu plus.
C'est la liberté.
C'est la liberté. Bien, ça n'en évite pas le danger, l'anxiété. Et je vous avoue que quand j'ai commencé cette maison, je pensais qu'elle durerait 2 ou 3 ans et qu'on aurait fait faillite au bout de 3 ans. Et il se trouve que ça fait 20 ans qu'on a réussi à avoir toujours la tête hors de l'eau, ce qui est, à mon avis, le but des éditeurs. Il y a des éditeurs qui, et je ne leur jette pas du tout la pierre, qui sont heureux de faire fortune. Il y en a d'autres qui sont heureux d'élargir un empire. Et puis, il y en a qui ont plaisir à éditer des livres sans avoir la moindre idée de puissance, de notoriété, d'importance, pour satisfaire un goût qui est modeste, puisque c'est le goût, de, au fond, de faire connaître d'autres livres qu'ils ont aimés, de constituer un petit peu leur propre bibliothèque.
Donc, pour vous, Bernard de Fallois, il y a encore aujourd'hui de la place pour les petits éditeurs, pour ceux qui ont envie de faire ce qu'ils veulent publier,
oui.
Et non pas seulement les grands groupes concentrés.
Il y a du danger pour tout le monde. Les grands groupes sont en danger, les petits éditeurs sont en danger, la vie de l'édition, comme de toute activité de commerce, est difficile, dangereuse, pour une raison quelquefois inverse, les petits n'ont pas plus de mal que les grands.
Vous avez publié pas mal d'académiciens. Serait-ce à dire que vous êtes un éditeur académique? Vous avez publié Jacqueline de Romilly, Tubiana,
Marcel Pagnol,
Tullard, Françoise Chandernagor, qui n'est pas académicienne, mais qui a écrit L'Allée du Roi, qui a été un joli succès d'ailleurs.
Qui est académicienne Goncourt.
Qui est académicienne Goncourt, oui, c'est vrai. Alors, est-ce à dire que vous êtes un éditeur assez académique, finalement? Est-ce que ça vous plaît comme...
Là, vous prenez académique dans un sens péjoratif.
Non.
Qui ne devrait pas,
oh,
être,
non, je suis
qui devrait pas être d'usage ici.
Ici, bon. Il n'est pas péjoratif.
Non. La preuve que l'académie, ce n'est pas forcément l'establishment dans le sens péjoratif, c'est que justement, tous les noms que vous venez de citer, ce sont des gens, après tout, qui ont une indépendance, une originalité, qui fait que ça aurait beaucoup étonné leurs amis si on avait dit un jour, ils seront à l'académie. J'ai connu Jacqueline de Romilly en 68. C'est Raymond Aron qui m'a dit un jour, une professeure de mes amis vient d'écrire un petit livre sous l'émotion de ce que nous avons vécu en mai 68. Et il faut savoir que pour beaucoup de professeurs passionnés par leur métier, 68 avait été ressenti de manière assez douloureuse. C'est Jacqueline de Romilly. Elle a écrit un petit livre intitulé « Nous autres professeurs, voulez-vous le lire ?» Et je l'ai lu, je l'ai publié, c'est ainsi que nous avons fait connaissance. Puis quelques années après... Jean d'Ormesson, je crois, m'a téléphoné en disant « Jacqueline de Romilly a envie de prendre position dans la querelle sur l'éducation. Elle trouve que ça commence à prendre mauvaise tournure. » Et c'est comme ça que j'ai publié son deuxième livre. Et tout ça, c'était donc très longtemps avant que l'Académie n'ait la très heureuse idée de lui dire « Venez représenter chez nous ce qu'est la véritable culture ancienne, ce qu'a été l'hellénisme, etc. »
Et là, on parle de l'Académie française, mais elle était déjà à l'Académie des inscriptions et belles-lettres comme helléniste. Il ne faut jamais l'oublier, car elle y tient beaucoup.
C'était très bien. Alors, quant à Pagnol, il est certain que l'auteur de Topaz et de Marius... Personne n'aurait pensé qu'il deviendrait académicien.
En 46,
et aujourd'hui encore, la Comédie française considère que ça serait en dessous d'elle de jouer Topaz, qui est un des grands classiques français. Mais les comédiens français ne l'ont pas encore appris.
Ils n'ont pas encore mis au
Peut-être
pas
qu'un
dans
jour,
le
si l'un d'eux entend cette émission, il se dira « Je vais lire cet auteur inconnu » et il s'apercevra que Topaz est une des plus grandes comédies françaises.
Est-ce que vous qui avez commencé en jouant, en interprétant un garde dans Suréna, vous avez envie de finir, si je puis dire, en jouant Topaz?
Non, je suis trop vieux pour jouer Topaz, mais sinon ça m'aurait beaucoup plu. Mais je n'aurais peut-être pas eu le génie qu'il faut pour jouer Pagnol. C'est un des plus grands auteurs dramatiques français, et l'histoire du petit professeur humble, modeste, mais attaché à l'honnêteté, qui en quelques heures devant le public découvre que le monde n'est pas dirigé par l'honnêteté et devient à son tour une crapule plus grande que les crapules, c'est une fable extraordinaire et il faut un très grand acteur pour le jouer. Heureusement pour lui, Pagnol a vécu à l'époque où les très grands acteurs qu'il a découverts pouvaient rester pour toujours les amis du public grâce au cinéma.
Alors, il y a aussi quelqu'un d'autre que vous avez découvert et que vous avez découvert avec un autre grand éditeur, un très grand de l'édition qui s'appelle Vladimir Dmitrievitch. Et là, il faut dire que vous avez eu un grand courage. Vous aviez anticipé avec les droits d'asile en Union soviétique, mais alors là, vous avez fait fort, si on peut dire, parce que vous avez été très fidèle à Dmitrievitch, qui a été très malmené en tant que Serbe avec tout ce qu'on sait. Qui a fait découvrir toute la littérature de l'Est, qui a fait découvrir bien des choses, vous le direz vous-même. Mais surtout, c'est l'aventure Volkov. Vous avez chevauché avec Vladimir des chevaux qui sont partis et qui, vous avez édité tout Volkov ou presque.
Oui, presque tout. Oui.
Presque tout. Et vous avez dit que c'était le Dostoïevski moderne. Alors, est-ce que vous nous avez finalement, est-ce que c'est votre découverte avec Dmitrievitch?
Ben c'est un des auteurs que je suis très content d'avoir découvert, d'avoir essayé de faire connaître, et que j'ai aidé parce que je crois que Volkov ne manquait pas de courage et aurait continué à écrire même si on ne l'avait pas publié, puisque quand Dmitrievitch et moi l'avons connu, c'était par Pierre Gripari, qui était un ami de Volkov, et Volkov était découragé, il vivait à l'époque aux États-Unis où il s'était réfugié
à Atlanta, oui.
Après la fin de la guerre d'Algérie, car Volkov avait été tellement blessé par le traitement fait aux harkis, je n'hésite pas à vous le dire, j'espère que ça ne vous choquera pas, qu'il avait décidé de quitter la France. Et il était professeur aux États-Unis. Il écrivait beaucoup, il envoyait quelquefois des manuscrits aux éditeurs qui lui répondaient les lettres habituelles de refus, avec politesse, mais en disant que ce n'était pas leur genre. Et un jour où il n'y croyait plus, il a reçu de Pierre Gripari, qu'il aimait bien, une lettre lui disant « Il y a en Suisse un éditeur qui est probablement le seul qui pourra aimer vos romans, c'est Vladimir Dmitrievitch ». Volkov lui a envoyé à la fois « Les humeurs de la mer » et « Le retournement ». Et Dimitri, quelques jours après, m'a proposé de les lire et, si je le voulais, de les coéditer avec lui parce qu'il sentait qu'il fallait une sorte de puissance de lancement et de distribution plus grande que la sienne pour l'œuvre de Volkov. C'est ainsi que cela s'est fait.
Alors nous allons peut-être arrêter pour une petite pause. Cher Bernard de Fallois et chère Hélène Renard, nous reprendrons dans quelques minutes.
Jean-Luc Pinceau, le créateur de la troupe du Petit Miroir, spécialisée dans le théâtre des marionnettes chinoises, est lauréat depuis le 11 juin 2007 du prix de la Fondation franco-culturelle taïwanaise. Vous êtes amateur de théâtre, venez découvrir ce théâtre très populaire à l'origine de l'opéra chinois. Depuis le XVIe siècle, à Taïwan, les marionnettes honorent les divinités. Ce théâtre cultuel est aujourd'hui un élément fort de la culture taïwanaise. Alors installez-vous confortablement, venez écouter l'émission Point de mire et levons ensemble le rideau sur un genre théâtral qui invite au voyage. Retrouvez l'émission Point de mire, la culture taïwanaise dans le miroir des marionnettes.
Bernard de Fallois, lorsque Georges Simenon est mort, vous avez écrit, c'était en 1989 dans Paris Match, « J'ai surtout perdu un ami ». Et nous, aujourd'hui, on aime bien vous entendre parler de vos auteurs, c'est-à-dire de vos amis. Est-ce que vous avez noué des relations amicales avec chacun des auteurs à des degrés différents?
Pas toujours, mais très fréquemment. Un des clichés sur l'édition est que s'il n'y avait pas les auteurs, ça serait plus agréable. Personnellement, j'ai pas eu cette expérience. Je suis très heureux d'avoir rencontré beaucoup de gens extrêmement agréables, très sympathiques, qui sont devenus des amis. Quand j'ai dit cela de Simenon, ça voulait dire l'écrivain génial qu'il était, personne ne l'a perdu. Il est toujours vivant, il est toujours là, prêt à nous soutenir dans n'importe quelle insomnie, prêt à nous faire attraper n'importe quelle simnonite. Vous savez, c'est ce que disait André Gide.
Simnonite aiguë.
Je viens d'avoir une simnonite aiguë, parce que quand on en lit, on ne peut pas ne pas en lire 4 ou 5 de suite. Et celui-là, il n'est pas perdu en mourant. Mais pour moi, qui avais vraiment découvert en Simenon un homme beaucoup plus très différent du portrait qu'on en faisait dans le journalisme, et très attachant, véritablement très sympathique et très chaleureux avec ses amis. Ce jour-là, j'avais envie de dire ça. Mais pour le reste, je suis très content d'avoir contribué à une chose qui est très difficile en littérature, et puis peut-être surtout, mais au fond c'est la même chose à toute époque, c'est l'évaluation d'un écrivain. Mais après tout, Stendhal, on a mis des années, on a mis 50 ans, avant de l'évaluer. Balzac, on a mis très longtemps.
C'est ce que disait Cocteau, vous savez.
Pour voter pour lui quand il se présentait à l'Académie.
C'est Cocteau qui disait « Je voudrais qu'on m'envisage après m'avoir dévisagé
». Oui, bien sûr, il avait raison. Et dans le cas de Simenon, c'était ça. C'était admis que c'était un prodige, un phénomène de foire. L'homme qui écrivait aussi facilement que d'autres vont boire un verre d'eau. Et en fait, personne ne croyait vraiment qu'il était un grand écrivain. Sauf quelques critiques, sauf André Gide, qui le savait. Et encore, André Gide et Gaston Gallimard disaient « Grand romancier, oui. Grand écrivain, attendons pour savoir. » Bon, c'est parce que quelque chose les gênait dans le fait que ce petit Belge sans grande culture laissait tout le monde loin derrière lui dès qu'il commençait à écrire un roman. Et ces romans... Ben, on hésitait à dire c'est parmi les grands.
Vous dites vous-même, c'est la première fois que vous définissez d'ailleurs ce que vous aimez dans un roman, parce que dans ce fameux article de Match dont parle Hélène Renard, vous dites à un moment donné, j'ai pas le texte sous les yeux, mais vous dites que précisément en 2 secondes, dès la première phrase, on bascule dans un univers.
Oui,
pour vous, finalement, ben, c'est ça un roman.
Et oui, je crois que c'est... En tout cas, il peut y avoir de très jolis contes romanesque, des fables, si on veut. Candide n'est pas un roman au sens où Simenon écrit des romans. Et c'est très beau aussi, l'extension, le côté étiré du roman dans un sens, dans l'autre, fait le charme d'ailleurs du genre. C'est pour ça que tant de gens ont mis le roman au sommet. Mais le vrai roman tel que les romanciers du 19e l'ont défini, que ce soit Balzac, Dostoïevski, Dickens, Walter Scott au début, Dumas si on veut, tout ça, ce vrai roman, c'est celui que l'on endosse et au bout de quelques minutes, vous êtes le héros, l'héroïne, vous vivez l'histoire avec la force que le cinéma allait permettre d'imposer plus tard. C'était le cas de Simenon. Or, Simenon, lorsque dans les années 60, Gallimard avait créé une collection appelée la Bibliothèque Idéale, consacrée à des écrivains, et demandait aux jeunes journalistes de l'époque d'écrire des livres. On m'a dit quel auteur voulez-vous choisir. Et comme j'avais fait un travail sur la formation de Proust, j'avais publié le Jean Santeuil et le Contre Sainte-Beuve, on m'a dit naturellement vous allez demander à faire Proust. Et j'ai dit non, parce que Proust, je crois que maintenant quand même personne ne doute plus que ce soit le grand écrivain du siècle, en tout cas l'un des plus grands écrivains du siècle. Tandis qu'il y en a un pour lequel ça reste un paradoxe. Et je voudrais qu'un jour ça cesse d'être un paradoxe de défendre Simenon, mais que tout le monde dise, mais oui, c'est évident. Or, c'était en 60, et c'est il y a 2 ans, donc en 2005, que la Pléiade a consenti à se dire, et maintenant qu'elle l'a dit, c'est admis par tout le monde, Simenon est un très grand écrivain du XXe siècle.
Je voudrais simplement lire les quelques lignes que vous donnez comme portrait de Simenon pour dire aussi que les éditeurs savent écrire, même quand ils ne publient pas. Son visage est sans relief, mi-tintin, mi-roule-tabille. Il a un aplomb terrible qui ne se voit pas. De loin, malgré une tendance à l'embonpoint, il paraît plutôt fluet, timide, jovial et malicieux. Si on regarde ses mâchoires de plus près, on voit qu'elle pourrait broyer un quartier de bœuf. Et quand les yeux qu'il a très pâles se pose sur vous, on dirait 2 rayons laser. Moi, je trouve ça pas mal...
C'est pas mal écrit.
Pas mal tourné hein, pour un éditeur.
Alors, Bernard de Falloy, l'écriture chez vous, c'est seulement la lecture ou il y a aussi l'écriture?
Non, il n'y a pas d'écriture.
Il n'y a pas d'écriture. Voilà, donc, l'éditeur n'écrit pas.
Sauf de temps en temps, si on me demande.
Même pas un journal, pas ses rêves, de temps en temps. Pas du tout.
Il y a 2 personnes dont on n'a pas parlé et qui ont compté pour vous, je crois. C'est Emmanuel Berle, pour qui vous avez écrit une préface et avec qui d'ailleurs d'Ormesson avait fait des entretiens superbes. Et très différemment, hein, encore que Pascal Jardin. Au fond, c'est peut-être pas par hasard que je parle des 2 à la fois.
Oui, on peut trouver un lien. Nous allons le dire. Il y a un petit lien entre eux, mais c'est pas le fond du problème. Emmanuel Berle, je l'avais découvert pendant la guerre chez une de ses cousines qui avait les œuvres publiées avant 40 de Berle dans sa bibliothèque, et je rêvais de le connaître. C'était un esprit tellement brillant, fascinant, d'une intelligence qui n'était pas impressionnante, qui n'était pas rébarbative, tellement simple, tellement modeste, et en même temps tellement lumineuse, avec une forme de d'acceptation de l'autre point de vue que le sien, qui me tentait déjà beaucoup, qui me paraissait déjà le propre de l'intelligence, que je rêvais de le connaître. Et j'avais dit à sa cousine, qui se trouvait être, il faut bien le dire, en même temps, la cousine de Proust, la nièce de Bergson, car c'était le même milieu, c'était la même famille, tout cela. Je lui avais dit, après la guerre, j'espère que vous me ferez connaître Emmanuel Berle. Et elle me disait, oh, vous savez, je n'aime pas tellement Emmanuel Berle, c'est mon cousin, mais sa vie personnelle, sa vie conjugale, tout ça laisse beaucoup à désirer.
Avec parce Mireille, il faut le rappeler.
Parce que sa cousine était très exigeante sur le plan moral, et Emmanuel avait eu une vie un peu dissipée de ce point de vue-là. Mais je l'ai connu, et ça c'est un paradoxe aussi, je l'ai connu au cours d'une soirée, qui ressemblait un peu au temps retrouvé, donnée par Paul Morand quand il est rentré à Paris, après les années qu'il a passées en Suisse prudemment, pour éviter les ennuis qu'il aurait pu avoir à la Libération.
Oui, parce que rappelons-le, il écrivait les discours du maréchal Pétain.
Non, non, là je parle de Paul Morand.
Ah, Paul Morand, pardon.
Paul Morand était ambassadeur de Vichy, etc. Et naturellement, aurait eu des ennuis s'il s'était trouvé à Paris. Alors, il est rentré seulement dans les années 50, 49-50, et il a donné dans sa belle maison de l'avenue Charles Floquet, ou d'une des avenues près du Champ de Mars, une soirée où il a invité beaucoup de gens, y compris des gens jeunes comme moi, qu'il ne connaissait que par des articles de journaux ou des choses comme ça. Et ce jour-là, je me suis trouvé être à côté d'une dame qui m'a dit « Je suis Mireille ». Alors, l'idée de me trouver en face de Mireille, c'est-à-dire d'avoir l'impression de faire un bond de plusieurs années en arrière, de retrouver Jean Nohain, Mireille...
Est-ce qu'elle vous a fait chanter?
Non, elle était charmante, elle avait une voix de chanteuse, elle avait aussi le caractère très piquant que Berle aimait, et puis Berle était à quelques mètres de là, à une autre table, elle me l'a présenté, et depuis ce moment-là, c'est-à-dire depuis les années 50, nous sommes devenus vraiment amis, c'est-à-dire qu'il adorait des gens plus jeunes que lui qui venaient l'interroger, il était insatiable, passionnant, et Jean d'Ormesson, qu'il a connu probablement en même temps que moi, a fait ce très beau livre d'entretien, et lui-même, alors longtemps après, dans les années 75, m'a dit « je voudrais refaire un livre d'entretien avec quelqu'un que j'aime beaucoup ». C'était Patrick Modiano. J'avais entendu un jour Berle me dire au téléphone « avez-vous lu La place de l'étoile ?» Non, eh bien ça vient de sortir, précipitez-vous, vous allez voir, enfin il y a un écrivain. C'était Modiano. Et alors, Berle aimait tellement Modiano, il avait tellement un sentiment de paternité enfin réalisé avec Modiano, qu'il voulait faire un deuxième livre d'entretien avec lui, qui a eu lieu, qui a été publié quelques années plus tard. Et nous étions rencontrés à cette occasion, tous les trois, avec un photographe qui a immortalisé cela, en faisant de très belles photos de Berle et de Modiano. C'était Édouard Bouba, que vous connaissez peut-être, qui est un des plus grands photographes de cette époque. Alors Berle, en effet, était quelqu'un dont l'esprit vous suivait en permanence, se référait à sa manière de voir, à sa manière de s'interroger, à sa manière de ne jamais penser qu'une vérité est acquise, et cependant de ne jamais transiger avec ce qui paraît être vrai. Tout cela fait que j'ai fait ce que j'ai pu pour qu'il ne soit pas méconnu. Je ne suis pas sûr d'y avoir réussi.
Mais est-ce que d'ailleurs le fait d'avoir écrit les deux fameux discours de Pétain, parce qu'il ne faut pas l'éluder, la Terre, elle ne ment pas, parce que personne ne sait que c'est Berle qui a dit la Terre, elle ne ment pas.
Ben on l'a quand même beaucoup dit pour
on
le lui
dit,
reprocher.
On l'a un peu trop peut-être, oui, pour lui reprocher.
Est-ce
oui.
que lui, on était désolé, ou est-ce que, mon Dieu, ben,
pas
ça faisait partie
il s'est
des
exprimé,
erreurs.
Oui. Il s'est exprimé très clairement sur tout cela dans un livre appelé La fin de la Troisième République.
Oui. Qui est que un vous avez préfacé d'ailleurs.
Oui, dont Pierre Nora a fait la réédition cette année, pour lequel j'ai fait une préface, parce que c'est un livre qui est d'une extraordinaire vérité d'ambiance. À travers le récit d'un témoin qui n'était pas un acteur, comme Berle, mais qui était proche des acteurs, qui les connaissait tous, donc qui ressentait les choses doublement. Il ressentait comme un des 40 ou 50 millions de Français perdus sur une route, sachant plus qui était où et ce qui se passait, mais en même temps comme quelqu'un qui, à Bordeaux, rencontrait Mandel, rencontrait Reynaud, rencontrait la comtesse de Porte, et connaissait tout le monde. Alors ça, c'est un livre que je recommande à tous ceux qui, par leur âge, n'ont pas connu cette époque. S'ils veulent avoir une petite idée de ce qu'a été cette époque, et par extension de ce qu'a été l'occupation, et par extension de la difficulté qu'il y a à comprendre l'histoire quand on ne l'a pas vécue, si tant est qu'on la comprenne mieux, en tout cas un peu moins mal quand on l'a vécue. Je le recommande de lire ce livre appelé « La fin de la Troisième République ».
Et le joyeux jardin, alors ?
Alors, eh bien là nous arrivons dans ce que je disais, l'histoire est plus complexe qu'elle n'en a l'air. Jean Jardin, jeune homme de peut-être une quarantaine d'années, avait travaillé avec Raoul Dautry au chemin de fer, avant la guerre. Il faisait partie de ces jeunes gens de droite qui cherchaient, pour la France, une issue. Il y en avait beaucoup à ce moment-là. Pendant la guerre, on lui a proposé un jour de devenir chef de cabinet de Pierre Laval. Il a accepté. Comme beaucoup de gens qui travaillaient à Vichy, il était d'un patriotisme ardent. Il n'était nullement partisan de la victoire allemande, contrairement à ce que Laval a dit un jour à la radio. Et il était tout prêt à aider tous ses amis en difficulté. C'est pourquoi Maurice Couve de Murville est parti de chez lui avec sa protection pour l'Espagne et l'Algérie. C'est pourquoi Robert Aron a habité chez lui. Et c'est pourquoi, quand Berle sentait qu'il y avait un petit danger qui se précisait dans les années 43-44, il envoyait Mireille dire à Jean Jardin, est-ce que on pourrait savoir ce qu'il faut faire pour avoir un peu la paix? Et Jean Jardin l'avait aidé. Il le connaissait avant la guerre, il l'avait aidé. Ce qui fait que, lorsque le jeune Pascal, qui lui avait, comme le dit le titre de son livre, 9 ans, pendant la guerre, a écrit ce très joli livre de souvenirs appelé « La guerre à 9 ans », il en a fait lire le manuscrit à Berle, et Berle a accepté de le préfacer. Ce qui fait que on peut dire que deux jeunes gens qui parlaient le milieu de naissance pourraient être opposés, Modiano et Pascal Jardin, tous les deux ont eu, en quelque sorte, le même parrain sur le plan littéraire, qui était Emmanuel Berle. Alors tout ce que je dis là va peut-être surprendre, va peut-être choquer, mais il ne faut pas hésiter à choquer, parce que ça peut être quelquefois le début d'un progrès dans le domaine intellectuel. Et si les gens ne veulent pas, s'ils disent « Oh, vous avez des choses », eh ben ils le disent, voilà. Et puis il ne faut pas non plus avoir peur. Je crois que vous-même, Elisabeth, vous défendez toujours cette idée que les gens ont trop peur et de dire et de faire, et que dans la vie, il ne faut pas tout le temps croire que les dangers sont tellement épouvantables qu'il faut se taire. Non, il faut dire ce qu'on croit vrai, et puis voilà. Très souvent, ça se passe mieux qu'on ne croyait.
Mais Hélène Renard, je crois, est de notre avis, d'ailleurs, puisqu'elle m'a asilée, elle m'a donné droit d'asile.
À Canal Académie. Écoutez, nous sommes très heureux d'écouter tout ce que vous dites, justement, parce qu'on a l'impression que la vérité est parfois amputée d'un pan, et que pour des gens qui n'ont pas connu cette époque, c'est très important qu'on ait d'autres points de vue, d'autres éclairages que ceux que l'on voit maintenant écrits partout, en effet. Donc, c'est très important.
Au fond, vous êtes un éditeur de l'esprit français, c'est-à-dire que tout ce que vous nous avez décrit, c'est ce qu'autrefois on appelait l'esprit français, en cette année d'ailleurs anniversaire de Guitry. Au fond, c'est ça qui vous a animé pendant très longtemps, parce que je vous ai rarement... C'est vrai que vous avez publié de la littérature étrangère, bon, si tant est, d'ailleurs Volkov n'est pas un étranger dans la littérature, mais vous publiez encore des romans anglais, etc. Mais au fond, profondément, vous êtes le dernier dinosaure de l'esprit français.
Mais écoutez, peut-être, c'est de l'extérieur qu'on voit ce que les gens sont, plus qu'eux-mêmes. Moi-même, je m'accuse souvent d'être un petit peu francophobe, parce que je suis plus agacé par mon pays que par les autres. Et après quoi, je me dis, c'est tout à fait normal. Si j'étais espagnol, je serais beaucoup plus agacé par mes compatriotes, parce que je les connaîtrais mieux. Moi, je ne connais les autres pays que ce qu'il y a de mieux. Quand on connaît l'Angleterre à travers Shakespeare, l'Espagne à travers Cervantes, l'Allemagne à travers Goethe, on se dit, c'est des pays merveilleux. Peut-être que sur place, il y a des côtés plus agaçants. Alors qu'en France, je connais ce qui est très bien, mais je suis souvent irrité, peut-être plus souvent encore, parce qu'il ne me plaît pas.
Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous auriez envie d'éditer encore et que vous avez raté?
Un grand projet.
Mais ça ne me vient pas à l'esprit, ça existe sûrement, mais je ne peux pas dire raté, vous savez, je suis très content quand les livres paraissent chez les autres. J'ai été très content, par exemple, de persuader Simenon de me laisser publier ses romans dans la collection Le Livre de Poche. Il n'avait jamais voulu. Bon, j'ai aussi été très content de convaincre Marcel Pagnol que le succès considérable de ses souvenirs d'enfance appelait une édition de grande dimension populaire comme celle du Livre de Poche. Mais sans ça, des écrivains publiés par d'autres éditeurs, ben je les aime tout autant. Je ne fais pas
récemment, quand même, vous avez été fier de publier, je crois, Maurice Dubiana. Vous l'avez découvert.
Ah, j'ai été très heureux et très triste de voir qu'il n'était pas accueilli avec l'admiration que méritaient ses mémoires. Maurice Dubiana est un défenseur de l'esprit scientifique, du progrès dû à la raison, de tout ce qui, au-delà de la science, sur le plan moral, vient de cet attachement à la raison. Et il a écrit un très beau livre de souvenirs où son expérience de médecin est présente, et ses recherches sur le cancer sont présentes, mais où aussi toute sa jeunesse, toute son éducation, toute sa traversée de la guerre sont magnifiquement écrits. Et j'ai très bien compris que s'il n'a pas eu l'accueil de nos télévisions, de nos journaux, que d'autres qui font plus appel à la pensée que j'appellerais magique, qui pense davantage qu'au fond, il y a plus de vérité dans la médecine indienne ou chinoise ou étrangère à partir du moment où elle est plus poétique, ça, que dans l'humble science. Je me suis dit, c'est un signe de notre époque. Et bravo à Dubiana de l'avoir dit, parce que le livre restera. Il sera un jour davantage connu.
En tout cas, Canal Academy a invité le professeur Dubiana et nos auditeurs peuvent lire l'émission sur ses souvenirs et sur ce livre qu'il vient de donner dans notre studio. Donc, elle est dans notre médiathèque.
Très bien. Il y a une chose, je vais laisser Hélène Renard vous poser la dernière question, parce que sinon je vais toujours parler, mais j'aurais aimé lire encore deux lignes que vous avez écrites, parce que, évidemment, là, ça va dans mon camp et dans notre partenariat avec Hélène Renard pour le Festival européen latin-grec, où vous avez envoyé vous-même déjà des livres et vous avez participé au premier festival vous-même, mais en disant aussi une chose très gentille, je ne sais plus, vous aviez une phrase extrêmement aimable là-dessus, en tant qu'éditeur de Jacqueline de Romilly. Et en quatrième de couverture d'un livre déconcertant de Dimitrievitch, parce qu'on y attend, on n'attend pas ça d'un homme aussi sérieux, « La vie est un ballon rond », d'abord, je vous ai découvert comme un adepte du foot. Alors ça, je savais pas que tous les deux, vous étiez adeptes du foot. Et vous avez écrit des lignes que je trouve superbes et qui, pour moi, seront ma conclusion, puisqu'on se retrouve encore sur la même longueur d'onde. Le sport aura été, avec le cinéma, une des plus belles inventions de notre siècle. Né en Grèce, disparu pendant 2000 ans, redécouvert par les Anglais à la fin du 19e, il a peu à peu conquis tous les publics et tous les pays. Une conquête magnifique et pacifique. Il a résisté à tout, à la télévision qui banalise, à l'argent qui corrompt. Il a fait triompher contre ces deux plaies de la vie moderne, ces évidences. La vérité contre l'artifice, le courage vrai, le dépassement de soi, l'esprit d'équipe. Chaque jour, il nous rappelle le message de la Grèce. Le monde est plein de merveilles, mais la merveille des merveilles, c'est l'homme.
Ah ben je souscris tout à fait. Bravo d'avoir dit ça, d'avoir écrit ça.
C'est vous qui l'avez écrit.
C'est vous.
Je ne crois pas qu'après de telles belles phrases, on puisse ajouter quelque chose. Simplement, Bernard de Fallois, si on voulait vous demander un mot que vous aimez beaucoup, le mot que vous aimez vous répéter pour vous donner beaucoup d'énergie, qui vous fait rêver. Quel
votre mot
vous
emblématique.
Votre mot emblématique.
Non, je suis désolé de vous le dire, mais il faut être franc. Je n'ai pas de mot emblématique et ce serait artificiel d'essayer d'en trouver un.
Éditeur.
Aussitôt le mot en contraire me paraîtrait peut-être meilleur.
Merci Bernard de Fallois d'avoir passé son moment avec nous et merci Elisabeth Antebi.
Merci Hélène.
On vous aurait écouté encore plus longtemps, mais je crois que notre émission est terminée. Merci beaucoup.